Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Elle est philosophe, elle est docteur en philosophie et évidemment habilitée à diriger une recherche importante qui prend une partie non négligeable de son temps. Elle est non seulement philosophe, mais aussi professeure à l'École spéciale d'architecture. Elle est également psychosociologue. J'accueille avec beaucoup de bonheur Chris Younes. Bonjour Chris.
Bonjour Bernard, merci pour cette invitation.
Mais non, mais c'est un vrai plaisir pour nous. Dans nos esprits, à tort ou à raison, la philosophie semble avoir consacré plus de réflexion au temps qu'à l'espace. Georges Perec écrivait dans Espèce d'espace, l'espace est un doute. Et vous avez co-dirigé un ouvrage tout à fait étonnant qui s'appelle, co-dirigé avec Thierry Pacot, qui s'appelle Espace et lieu dans la pensée occidentale, de Platon à Nietzsche. C'est un ouvrage pionnier qui interroge 19 philosophes sur la déclinaison de ces deux concepts à travers l'histoire. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Oui, effectivement, vous avez raison, c'est que la réflexion sur l'espace a toujours été dans l'ensemble plus pauvre que celle sur finalement la question du temps qui lui est finalement associée, qui en est symétrique. Et c'est finalement à partir du XVIIe siècle, avec finalement toute une approche scientifique, que des figures comme Descartes, Leibniz, Newton, Berkeley, enfin ouais, Kant, Locke, enfin des philosophes et des chercheurs finalement, on pourrait dire, ont remis l'espace vraiment au cœur de la question, qui a été largement relancée finalement au XXe siècle avec la physique et à notre époque aujourd'hui. Ce qui fait que la question de l'espace quelque part avait besoin qu'on lui fasse place. Et puisqu'elle est totalement associée aujourd'hui à la question de l'espace-temps. Alors c'est un couple en fait dans cet ouvrage, c'est un couple sur la question de l'espace et du lieu, puisque c'était ça qui nous intéressait, c'était de voir à quel point le mot espace lui-même était lié à beaucoup, beaucoup d'autres mots. Comme si on prend la question en latin, lieu, locus, mais en grec, ça sera topos, parce que dans notre vocabulaire, on parle beaucoup finalement de la topique, enfin donc tous ces rapports sont complètement liés, et c'est ça qui nous intéressait, de donner la parole à des spécialistes quelque part, de certains philosophes, qui se sentent sur cette question de l'espace et du lieu dans leur pensée philosophique.
C'est sûrement très précieux pour tous ceux qui concourent à bâtir et demain à transformer sans doute la ville que de commencer par ces bases. Une autre question par rapport à la ville, c'est la nature, parce qu'on parle à tout propos de développer la nature en ville, parfois à tort et à travers, parfois avec au contraire beaucoup de bon sens. Et là encore, vous avez publié, il y a une dizaine d'années, aux éditions La Découverte également, d'ailleurs toutes les références seront associées par écrit à ce podcast pour nos auditeurs, un ouvrage intitulé « Ville contre nature ». Alors, avec ou contre nature ? Et de quelle nature parle-t-on quand on évoque les espaces verts, les espaces paysagers, les cités-jardins ? Au fond, est-ce qu'on parle d'autre chose que d'un simple décor ?
C'est effectivement la question majeure. D'ailleurs, le titre même de l'ouvrage, Ville contre nature, on avait beaucoup hésité, ville avec nature, parce qu'au fond, c'est plutôt ça qui est recherché. Il n'empêche que, on peut dire que la philosophie, questionner inlassablement le rapport à la nature, le rapport nature-culture est au cœur finalement de la question philosophique, même si la plupart du temps on peut dire que dans la philosophie occidentale la culture quelque part a pris le pas sur la question. Mais finalement cette question elle est inlassablement posée, comme la question de l'espace et du temps dont on parlait, qui reste des énigmes, et certainement le rapport à la nature est un grand débat. C'est un mot qui fait débat. Certains s'en défient profondément. En tout cas, philosophiquement, il a une richesse et on voit à quel point il continue. Et je crois qu'il est de plus en plus utilisé aujourd'hui, même si ça soulève d'énormes controverses. Parce qu'en fait, comme cet ouvrage cherche à l'évoquer et à le montrer, en particulier avec un grand philosophe maldinais qui revient sur les étymologies de nature. Vous voyez, nature, en latin, natura, ce qui est en train de naître. Et il rappelle, Henri Maldinet, à quel point, finalement, la traduction, finalement, du mot grec nature, fusis, n'est pas la même, puisque dans fusis renvoie plutôt à ce qui est croître, pousser, s'épanouir. Et donc, c'est très intéressant pour nous, aujourd'hui, de penser cette question de la nature comme une naissance, comme une genèse, comme quelque chose qui est toujours en devenir, et toujours quelque chose qui est en train d'arriver. Donc, vous voyez, c'est, la nature, c'est bien au-delà dans cette acception, la question des espaces verts. C'est quelque chose qui renvoie à quelque chose d'assez énigmatique et qui, comme disait Merleau-Ponty, nous porte, en disant la nature, finalement, elle est en nous, elle nous porte.
Et qu'est-ce qui vous a conduit à ce titre, donc finalement à choisir contre et non pas pour, ou non pas avec la nature ?
C'était quand même aussi par rapport à l'édition. Au moment où on publie ce collectif, 1999, il est publié, mais on a démarré avant, deux ans avant. C'était pas le moment de parler ville avec nature. Et l'accent était mis ville contre nature, c'était quelque part mettre à quel point, quelque part, la ville est un artefact. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, voir à quel point la nature est en ville, elle est présente, à quel point la question du vivant est au cœur de la question urbaine, c'est une évidence aujourd'hui. Alors que, vous voyez, il y a finalement une vingtaine d'années, c'était quelque chose qui n'était pas aussi évident, l'artefact primait largement. Alors bien sûr, l'artefact persiste et reste profondément inscrit dans la question urbaine, c'est fait de la main de l'homme, mais c'est cette alliance qui est en jeu entre la ville et la nature.
C'est parfaitement clair. Alors, il y a un autre ouvrage, je dois vous dire que je vous pose des questions sur trois ouvrages, que ce choix a été très difficile, pour ne pas dire tout très douloureux par rapport à toute votre production qui est abondante et dans laquelle chacun des sujets mériterait évidemment qu'on y passe du temps. Le troisième que j'ai arbitrairement identifié pour aujourd'hui, c'est l'ouvrage que vous avez publié avec Xavier Bonneau qui s'appelle « Perception, architecture, urbain ». Parce que si j'ai bien compris, mais c'est un peu la question que je vous pose, c'est de le vérifier, c'est qu'il s'agit de revisiter la culture de notre regard à travers l'évolution, notamment technologique, des modes de représentation. Est-ce que c'est bien ça ?
Mais c'est tout à fait ça. C'est la question dans la perception finalement de notre rapport au monde. Et finalement, ce rapport au monde, c'est une façon de le penser. C'est un regard intellectuel, mais c'est aussi un regard perceptif au sens de sensation, puisqu'en fait, les deux, évidemment, tout ce qui est perceptif, affectif, intellectuel, cognitif, tout cela est extrêmement lié. Et cet ouvrage, finalement, essaie d'affronter les grandes questions autour de la façon, de nos manières, de nos outils pour représenter le monde. Parce qu'en fait, il y a une grande crise de la représentation. Comment rendre compte de ce monde en mouvement? Et comment, et donc les différents chercheurs, praticiens qui se sont exprimés de l'architecture, de l'urbanisme, de l'anthropologie, de la philosophie, dans leur champ, finalement, de référence extrêmement différent, il questionne quand même notre rapport, notre mise en contact avec les choses, notre façon de les interpréter, d'en faire récit. Et donc la question de l'expérience, elle s'est trouvée centrale, qu'elle soit, voyez, en termes de ressenti, de vécu, ou qu'elle soit en termes d'action. Et cela a permis finalement, comme je pense dans notre ouvrage qui est un peu aussi lié au tournant de l'expérience, voyez, qui est une façon de réapprofondir cette question, c'est toujours de voir à quel point deux grands courants de la pensée, on peut dire des humains, enfin en philosophie, mais je pense la pensée tout court, qui est la phénoménologie, c'est-à-dire la façon d'essayer de regarder comment on vit les choses, comment on lit les phénomènes, ou bien la pragmatique, c'est comment on agit, comment ils sont corrélés, on peut pas les séparer en fait. Et donc, c'est toute la capacité finalement de rencontre, d'écoute, d'attention, et d'interaction qui est posée avec cette question-là. Et donc, les outils, quels sont nos outils, comment ils évoluent et comment est-ce qu'on peut être finalement peut-être plus à l'écoute du monde qui nous entoure.
Si je vous comprends bien, c'est un peu aussi comment garde-t-on la main sur ces outils. Parce que je dis ça parce que ce matin, avant cette interview, j'entendais parler d'une application de Google Earth, où on a toute la Terre représentée, etc., etc., et que cette application permettait de voir en accéléré se construire la ville depuis 300 ans ou 1000 ans, ou etc., selon les circonstances, ou se dégrader la mer d'Aral, ou les glaciers, ou le Groenland, etc., etc. Et donc, pourquoi j'évoque ça? Pour dire on a le sentiment, ou peut-être l'illusion, que nous n'avons jamais eu autant de moyens de représentation. Et peut-être que ça nous fait, j'ai envie de dire, peut-être que ce magnifique tableau de bord augmenté de cadrans supplémentaires en permanence nous fait croire que nous savons conduire. Alors que si je vous ai bien entendu, la question c'est est-ce que nous savons conduire et est-ce que nous conduisons mieux avec ces outils ?
Ces questions, elles sont majeures. C'est la raison pour laquelle c'est tellement important de réinterroger cette question des représentations. Parce que nous sommes maintenant au cœur d'un nombre de données phénoménales. C'est big data dont on nous parle. Mais qui renvoie, et je pense qu'on le voit très bien aussi je le vois avec mes étudiants, mais je pense que tout le monde en fait l'expérience, c'est que l'importance aussi de l'expérience en direct des choses est essentielle. Le contact qu'on a avec les choses, la prise de mesure finalement du rapport que l'on entretient aussi avec le monde et donc ces données, pour ne pas en rester simplement à des abstractions. Et à finalement un traitement de données abstraites qui quelque part nous font perdre aussi le nord et nous font perdre la boussole. On a besoin d'une boussole pour s'orienter.
En conclusion, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du laboratoire que vous co-dirigez avec Xavier Benoît ? Alors c'est le GERFO, c'est le groupe d'études et de recherche philosophie, architecture et urbain. De quoi s'agit-il ?
Alors ouais, c'est un laboratoire qui effectivement se veut et est interdisciplinaire, en particulier avec ces deux disciplines que sont l'architecture et la philosophie. La philosophie ne répondra pas, elle pose des questions et quelque part c'est très dynamique d'intéresser cette relation. Comment est-ce que, et d'ailleurs les questions que vous m'avez posées sur la question du rapport à la nature, à la représentation, cette question à l'espace, au lieu, ouvre de nombreuses questions qui sont évidemment au cœur de la pensée des architectes et de l'action des architectes, des urbanistes, des paysagistes. Et le laboratoire GERFO vise à justement à travailler, à faire travailler ces questionnements, mais aussi à d'une certaine façon interroger qu'est-ce qui s'invente, la question des métamorphoses, des inventions des métamorphoses et des, on peut dire, des métamorphoses des inventions est centrale. Alors actuellement, donc le laboratoire qui est dirigé, parce que moi je participe de la direction indirectement avec Xavier Benoît, on travaille beaucoup sur la question des risques, puisque maintenant le laboratoire GERFO accueille une chaire qui est pilotée par Éric Daniel Lacombe et Xavier Benoît, mais aussi la question des synergies, donc tout ce qui va se travailler ensemble. Donc vous voyez, c'est toutes ces questions qui sont au cœur des questions contemporaines que le laboratoire GERFO essaie d'affronter. En sachant que pour moi, je crois que le laboratoire, c'est d'abord un lieu. Ce laboratoire, c'est un lieu de doctorants. Il y a beaucoup de doctorants, de jeunes femmes, de jeunes hommes qui sont des architectes, quelques philosophes, et qui, ensemble, cherchent à expérimenter le dialogue et le projet, le design. Vous voyez donc, finalement, que théorie et pratique soient pensées ensemble et pas séparées. Parce que le drame, c'est de séparer les choses, que la théorie soit séparée de la pratique. Et donc, c'est travailler ces ponts, ces alliances qui sont au cœur, je pense, du laboratoire GERFO.
Il a donc des tas. Merci infiniment.
Merci.
C'est beaucoup. Très clair, passionnant et très riche. Merci beaucoup, Chris. Merci. Et à bientôt.
Merci beaucoup, Bernard.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.